Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous. Nous sommes le 6 janvier 2020, de retour après quelques jours de vacances et en pleine forme pour assurer ces 2 heures ensemble. Première partie toujours, hein, l'actualité et la musique live. Et deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, l'actu, c'est artistes et intellectuels présumés coupables, alors de quoi les accuse-t-on? De Gabriel Matzneff attaqué à Roman Polanski boycotté et réprogrammé, en passant par Peter Handke, prix Nobel de littérature controversé, des voix s'élèvent pour demander des justices, réparations ou même interdictions. La vie privée des artistes devient sujet à charge et menace l'intégrité de leur création. Mais un prix de littérature n'est pas forcément un prix de vertu. Assiste-t-on au retour de la censure, à un assaut moraliste? Faut-il, comme on l'entend souvent, séparer l'homme de l'œuvre? Et qu'en est-il de la liberté de création? Un titre ou plusieurs, Christophe Bourseiller?
Écoutez, des propositions. Moi, j'avais noté de Matzneff à Polanski, en passant par Handke, faut-il séparer l'homme de l'œuvre? C'est le côté sérieux. Après, Matzneff, Polanski, Gauguin, je voulais un peu changer, vague puritaine ou coup de balai moral, vers une génération morale, parce que c'est ça l'idée, et le 21e siècle sera moral ou ne sera pas.
J'ai bien compris. Musical, ce soir, Marion Guilbault, qui avez-vous invité pour ce premier véritable live de 2020?
J'ai invité une rappeuse, elle est belge, elle s'appelle Blue Samu, et c'est vraiment l'étoile montante d'une scène là-bas très très active.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le énervé la suite. Cette semaine, France Inter plus d'Albert Camus à l'occasion des 60 ans de sa disparition. Le énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant de vous lancer dans votre premier éditorial de 2020, Christophe Bourseiller, je présente nos invités. Céline Pic, porte-parole d'Oser le Féminisme, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Belinda Cannon, vous êtes romancière essayiste. Dernier livre paru, c'est La Forme du Monde aux éditions Artaud, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Juste à vos côtés, Thomas Schlesser, critique d'art, directeur de la fondation Hartung Bergmann et auteur de La Censure en Art aux éditions Beaux-Arts, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, à côté de moi, Carole Talon-Hugon, philosophe, vous avez signé La sous contrôle, nouvel agenda sociétal et censure militante chez PUF. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Christophe Bourseiller, la parole vous est donnée. Oui, mais ça je le citerai tout à l'heure. Il y a un autre livre, voilà, j'en donne à tout...
À tout va. Oui, alors écoutez... Écoutez Laurent,
au départ,
on va pas barguigner, ça c'est mon côté qui cherche des mots. D'ailleurs, on va pas barguigner
côté
sans
Macron.
Fin. Il faut, j'espère que non quand même, parce que ça commencerait mal. Il faut que vous sachiez qu'à mon avis, Richard Wagner était humainement un type pas sain. Vous savez qu'il a doué une aventure avec Mathilde Wesendon, dans le dos de son mari, qui était son mécène. À 25 ans, il était anarchiste, proche de Bakounine, mais il a retourné sa veste illico du jour au lendemain quand Louis II de Bavière a voulu le financer. Ensuite, il a vécu en Bavière dans un luxe si bling-bling qu'il a déclencher une crise politique locale. Un sale type, en somme. Devons-nous déprogrammer Wagner de tous les opéras?
De Bayreuth.
Jean Genet était un voleur, un truand, et il ne s'en cachait même pas. Faut-il que son éditeur pilonne les ouvrages restants?
De Gaët
la romancière
était
Colette,
antisémite.
Oui, tout à fait. La romancière Colette a écrit en 1943 dans le pire journal collabo, Combat au pluriel, organe de la sinistre milice. Doit-on retirer Colette des bibliothèques? Roman Polanski, Woody Allen, Jean-Claude Brissot, Charlie Chaplin se sont livrés à des actes de viol ou de harcèlement. Doit-on cesser de projeter leurs films? Jerry Lewis a épousé une fille de 14 ans. Exit le rock'n'roll? Léonard de Vinci, Paul Gauguin avaient des mœurs dissolues. Faut-il décrocher leur toile des musées? Ce débat sans fin leur ont rebondi et il suffit d'exposer différents cas pour voir qu'il est impératif apparemment de distinguer l'homme de l'œuvre. Si on ne le fait pas, on plonge dans la censure et peut-être dans le puritanisme. Oui, Laurent, mais il y a un hic. Regardez
vous
l'affaire.
Toutes les voix vous m'effrayent.
Oui, j'essaie de faire des voix.
Oui,
regardez l'affaire
acteur,
Matzneff.
Hein,
le problème de Gabriel Matzneff, c'est qu'il n'a justement pas souhaité dissocier l'homme de l'œuvre. S'il avait tout inventé, si ses frasques n'étaient qu'imaginaires, la question serait différente. Mais il n'a cessé d'affirmer que ses récits étaient véridiques. Ce qu'il raconte, il l'a vécu. Alors, Belinda Cannon, comment expliquez-vous la bienveillance générale à l'égard de Matzneff jusqu'en 2020, au fond, jusqu'en 2019?
Je pense que d'abord il y a un effet de milieu, c'est vrai. Il y a un effet d'époque et de milieu, c'est-à-dire d'époque, une époque qui était très permissive et qui ne savait pas trop où mettre la limite dans certaines attitudes, et notamment à l'égard de la sexualité. Et puis il y a aussi un effet de milieu. Ce matin, il y avait encore un grand article dans Le Monde qui racontait cette espèce de positionnement de Matzneff, d'aide que lui ont apporté constamment les gens du milieu littéraire. Donc conjonction de ces deux faits, si vous voulez, ça donne aujourd'hui l'affaire Gabriel Maznev. La question étant que Gabriel Maznev a écrit des livres qui sont notamment des journaux, beaucoup de journaux, dans
beaucoup
lesquels...
Beaucoup de journaux intimes dans lesquels il raconte le tourisme sexuel
avec
des enfants.
Voilà, il raconte le tourisme sexuel, ses activités sexuelles avec les jeunes filles, etc. La question, c'est d'une part, d'abord, qu'est-ce que c'est que ces journaux? Qu'est-ce que c'est que cette littérature? Est-ce que c'est de la littérature? Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain qui est tellement incapable de se mettre à la place des autres qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il vit et de ce qu'il fait avec des enfants? Voilà, donc il y a aussi beaucoup de considérations de cet ordre.
Mais pourquoi l'affaire Maznev n'apparaît qu'aujourd'hui, justement, suite à la on le sait, hein, à la publication du livre de Vanessa Springora, alors même que les faits étaient avérés depuis des années? On se souvient, on en voit dans tous les journaux, hein, l'affaire Apostrophe, où Denise Bombardier avait alerté justement l'opinion publique sur ce qui se passait dans ces livres. Pourquoi faut-il attendre aujourd'hui, donc le récit d'une ex-compagne, hein, véritablement, de Maznev, pour qu'on s'en émeuve? Cécile Pic.
Oui, alors je pense qu'en fait, on dit que MeToo est la libération de la parole des victimes. Moi, je dirais que c'est plutôt la libération de l'écoute des victimes. Parce qu'en fait, le silence n'était pas complètement complet, hein, sur l'affaire Maznev. Et il y avait en particulier une association qui lutte contre la pédocriminalité, qui s'appelle Innocence en danger.
Et qui avait plusieurs fois alerté, en effet.
Qui avait alerté, etc. Et même au moment du prix Renaudot en 2013, il y avait un certain nombre d'associations féministes qui avaient lancé des textes, des tribunes, comme on sait faire et qu'on fait habituellement quand on s'indigne, etc. Et bien sûr, on nous avait renvoyé à « vous êtes des censeuses, c'est de la liberté d'expression, c'est un artiste, c'est un écrivain ». Alors qu'en fait, effectivement, comme vous le dites très bien, il faut bien faire une différence entre un récit et ce qui est présenté comme un récit et autobiographique dans le cas des journaux de Gabriel Maznev et une fiction. Et là, clairement, ça tombe sous le coup de la loi. Ce sont des viols pédocriminels, tout simplement. Des viols d'enfants forcés à la prostitution aux Philippines, des garçons de 8-9 ans. Et puis, je pense qu'effectivement, quand on impose par sa situation d'écrivain des rapports sexuels à des enfants de 13 ans, 13 ou 14 ans, je pense qu'il faut remettre les mots à l'endroit, hein. Ce ne sont pas des ébats sexuels comme la titrée Libération, ce sont bien des viols pédocriminels. Et simplement, en fait, c'est que ces associations qui luttaient déjà contre la pédocriminalité étaient inaudibles. Donc en fait, plutôt, on est en train de voir aujourd'hui, avec MeToo depuis 2 ans, en fait, une libération de l'écoute et d'un certain nombre de personnes qui étaient inaudibles dans le débat public et qui remettent les choses à l'endroit. Et aujourd'hui, c'est parce que Vanessa Springora est effectivement directrice aussi, enfin, est installée dans le monde
dans le monde de l'édition chez Fayard,
voilà, et qu'elle a cette capacité d'écrire et de raconter,
d'être égal à égal, en fait,
égal à égal dans le monde de l'édition, mais derrière son récit, j'imagine bien qu'il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'enfants qui ont été violés par Gabriel Maznev, qui elles n'ont toujours pas le droit à la parole et de raconter leur histoire. Et quand Gabriel Maznev est sur Apostrophe, Le problème de la libération de l'écoute qu'on voit depuis 2 ans, c'est qu'elle n'existait pas et que personne n'a été voir de l'autre côté quel était le récit de ces enfants à l'époque.
Mais il faut dire qu'on était à une autre époque. Carole Talon-Hugon, peut-être que ça n'excuse rien, mais en tout cas, ça peut expliquer les choses. Moi, je me souviens, dans les années 70 du siècle dernier, on évoquait le combat sexuel de la jeunesse, titre d'un livre de Wilhelm Reich, et on évoquait la libre sexualité des enfants. Donc, c'était une époque... je me souviens, Gabriel Maznev a écrit une pétition pour défendre des pédophiles en 1977.
Il n'était pas le seul. Hein,
cette pétition a été signée par Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Louis Aragon, les plus grands esprits de cette époque-là. Comment
Patrick
vous interprétez
aussi
ce changement si rapide de paradigme?
Ce changement, enfin, je crois que ça a été bien dit. C'est vrai qu'il s'est passé avec MeToo notamment cette nouvelle attention à un discours qui était jusque-là tenu sous le boisseau. Mais je crois quand même qu'il est important de distinguer 2 cas qui ont été évoqués jusqu'ici et qui ont été un peu mêlés alors qu'ils sont très différents. C'est le cas de Maznev dont l'œuvre est pétrie de ces expériences infiniment condamnables, et le cas de Polanski ou de Woody Allen,
où les œuvres n'ont rien à voir,
les œuvres sont moralement totalement neutres. Donc ce sont 2 cas très différents.
Tout à fait. Hein, on reviendra sur l'affaire Polanski justement dans la deuxième partie.
Bien sûr, on a pensé à tout.
Thomas Chausser.
Oui. Oh, écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand on parlait du cas de Gabriel Maznev, c'est que à des fins de protection, on disait qu'il était charmant. Quelque chose qui est beaucoup revenu. Je dois dire que j'ai rencontré une seule fois Gabriel Matzneff dans ma vie, ça m'est arrivé. Et moi, je l'ai trouvé glaçant. Je crois que ce qui l'a protégé aussi, c'est qu'il faisait peur. En tant qu'individu, j'étais jeune, j'avais 22-23 ans. Et je l'ai croisé, c'était des circonstances, quoi. Et en effet, la paralysie de... Je savais, pour tout vous dire, je savais ce qu'il avait écrit. Je n'avais lu qu'un roman de lui, dont j'ai d'ailleurs aucun souvenir, qui s'appelle Les Lèvres Menteuses. Je ne me souviens même pas si ce roman évoque la pédocriminalité ou pas. Mais je savais par ce qu'on m'en disait dans le milieu de la critique, du journalisme, de la littérature. Et il me faisait peur. Et donc, en effet, dans ce cas-là, on se dit, bah, surtout ne rien dire, ne pas faire de vagues. Je dis ça parce que je crois qu'on a tellement dit que c'était quelqu'un qui, au fond, avait un charisme et une aura, avec un aspect doux. Je crois que c'est pas que ça, quand même. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est qu'à travers lui, c'est quand même toute la culture de libertaire de 68 qui est remise en question. Il y avait un texte très intéressant de Jean-Marie Apostolides qui montrait à quel point le personnage clé, c'était Sade. Sade que tout le monde a adulé, Sade qui est à la Bibliothèque Nationale, qui a des expositions, on voit les rouleaux de ses délires puisqu'il écrivait des rouleaux de manuscrits. Et aujourd'hui, Sade serait sans doute en prison.
Mais Sade est adulé après sa mort, il faut bien comprendre ça. Si vous voulez, c'est quand même très très différent d'arriver à se projeter dans la lecture de ce que sont en effet tous les soubresauts ignobles qu'il y a dans l'âme humaine et qui sont très importants de connaître, en tout cas quand on veut approcher d'une certaine forme de vérité. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire avec des auteurs dont on se dit que dans leur vie ils n'agiront plus qu'avec des auteurs dont on peut, ou des autrices dont on peut imaginer que leurs méfaits pourraient être encouragés par le simple fait de les lire.
Donc ça veut dire qu'il y a des limites à la transgression, en fait ? Parce que c'est ça aussi l'histoire de Gabriel Matzneff.
Je veux pas avoir une parole définitive et certainement pas la monopoliser. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus précieux. C'est notre bien le plus précieux, c'est la liberté. C'est au-dessus de tout. Et quand on pense à la liberté, on doit penser d'abord à celle des autres avant de penser à la sienne. Simplement, nous sommes en démocratie, nous pouvons faire usage de notre liberté, et ce qui est important, c'est de savoir si nous en faisons un bon usage. Moi, évidemment, je à titre personnel, je milite pour que Gabriel Matzneff puisse dire absolument tout ce qu'il veut.
Mais il peut être aussi condamné pour ses écrits.
Mais exactement, voilà, mais simplement, pour ses actes. Et de même, je pense que la liberté d'expression, et ça c'est vraiment... au cœur de ma réflexion, c'est que c'est tout autant celle de ceux qui reçoivent les œuvres, qui les perçoivent, le public, les spectateurs, les lecteurs, que ceux qui ont pour métier cette expression.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Extra-système mélancolique entre nous deux.
Ah ben d'accord, c'est le titre signé Junior avec un E à la fin et toutes les filles de Junior seront en live dans le NRV le 16 janvier prochain.
Voir ou ne pas voir le dernier film de Roman Polanski, J'accuse.
Faut-il séparer l'homme de l'artiste? C'est une vaste question qui en appelle d'autres.
Rendez-vous.
Si Francis Holm avait su faire un travelling, est-ce qu'il serait en tôle ou aux Oscars?
Est-ce que vous regarderiez par exemple un film fait par Xavier Dupont de Ligonnès? Est-ce que vous iriez à une expo de peinture faite par Guy Georges?
Sur France Inter.
Moi non, mais vous, ah, oui, moi, oui, Christophe Bonseillé, j'en suis sûr. Vous êtes tellement malade dans votre tête que vous pourriez. Retour sur l'affaire Polanski. Peut-être avec vous, Carole Talon-Hugo, vous êtes philosophe, vous avez signé L'art sous contrôle, nouvel agenda sociétal. Et c'est vous, tout à l'heure, d'ailleurs, qui avez montré qu'il y avait une différence entre le cas Matzneff et le cas Polanski. Comment comprenez-vous aujourd'hui qu'il y ait un cas Polanski, c'est-à-dire qu'on cherche à déprogrammer, même si ça a été arrêté, ou en tout cas qu'on cherche à boycotter son œuvre, alors même qu'elle n'a aucun rapport avec les viols, avec les faits qui lui sont reprochés?
Alors, je pense l'affaire est particulièrement complexe. Donc, d'une part, je pense que le cas, par exemple, Woody Allen, qui est un cas plus simple au sens où ce sont des œuvres qui n'ont pas de contenu immoral, on ne peut pas leur reprocher de faire exister le mal, de créer des, d'inviter à des comportements par mimétisme répréhensibles, etc. Elles n'ont pas de circonstances de production qui les rendent mauvaises, éthiquement parlant. Bon, bref, il n'y a aucune raison d'accuser l'œuvre en tant que telle. Simplement, là, dans le cas de Woody Allen, l'auteur...
Elle est interdite aux États-Unis.
...est, en quelque sorte, comme par capillarité, une sorte de censure qui s'est déplacée de l'homme vers l'œuvre. Bon, ça, c'est un cas problématique. Le cas, donc, Matzneff, on vient de le dire, est un cas radicalement différent, puisque là, c'est l'œuvre elle-même qui contient, c'est une sorte de journal, bon, on l'a dit. Le cas Polanski, J'accuse, c'est un cas intermédiaire très complexe, parce que il y aurait, je le mets au conditionnel, mais il y aurait la possibilité d'un parallèle entre les accusations portées contre Polanski et les accusations, enfin l'affaire Dreyfus elle-même.
C'est un peu ce que Polanski avait laissé entendre.
Oui, voilà. Au détour d'une phrase dans une conférence de presse,
oui, quand même,
minime. Et quand bien même, d'ailleurs.
Hein, c'est pour ça que je mets au conditionnel. Mais si c'était le cas, évidemment, ça rendrait la situation un peu plus complexe, puisque l'on n'aurait pas cette indépendance qu'on constate dans le cas de Polanski entre ses films
et son œuvre.
Voilà, c'est ce qui fait le cas de J'accuse, pas le cas de ses précédents films, et pas le cas donc du boycott, enfin la rétrospective annulée, etc.
Oui, mais enfin, on peut relire Tess on peut relire Tess au regard aussi de la vie de Polanski, donc tout est permis. Céline Pic, vous comprenez justement
juste le... Juste préciser quelque chose, dans le dossier de presse du film Dreyfus, il est explicitement fait référence aux accusations des femmes qu'il accuse de viol pédocriminel, et en particulier, une question est posée par Pascal Bruckner, qui est, je cite, vous vous sentez vous, est-ce que votre histoire de persécuté vous a inspiré cette œuvre-là? Il répond oui.
Bah bien entendu, oui.
Voilà, donc bien entendu, il parle de
son enfance. Ça me semble tout à fait cohérent et
il
normal.
Il parle surtout, c'est bien marqué noir sur blanc dans le dossier de presse, les histoires extravagantes de femmes que je n'ai jamais vues. Donc, une semaine après le témoignage circonstancié et l'enquête du Parisien de Valentine Monnier, qui Et la 12e femme victime de Polanski à l'accuser de viol pédocriminel, ça fait un petit peu beaucoup. Donc il y a effectivement, dans le film de Dreyfus, une instrumentalisation d'une histoire qui est pour moi extrêmement importante dans l'histoire de la française, hein, puisque c'est extrêmement emblématique de la réalité de l'antisémitisme en France, et qu'il se soit saisi de ce moment extrêmement important de l'histoire française pour le récupérer et se faire passer pour un persécuté, c'est vraiment une technique qu'utilisent beaucoup les agresseurs et les violeurs, c'est la technique de l'inversion. C'est-à-dire qu'il est bourreau, il est accusé de 12 viols hein, par 12 femmes différentes qui ne se connaissent pas entre elles et qui racontent le même stratagème qui est utilisé par Gabriel Matzeff de piéger des enfants pour les violer, et il se fait passer pour une victime et pour un persécuté. Et
pour autant, faut-il ne pas regarder son œuvre, Bélina Cannon.
Oui, et puis surtout, faut-il s'intéresser aux intentions de l'auteur ? Excusez-moi, moi je passe ma vie, entre autres, à enseigner la littérature et à l'analyser. Je n'apprends pas à mes étudiants à se pencher sur l'intention de l'auteur en faisant l'œuvre. Je leur demande d'analyser l'œuvre. Or, excusez-moi, dans le film sur Dreyfus, il n'y a pas l'ombre d'un problème, et je me fiche éperdument de si dans un dossier de presse, quelqu'un, Polanski, mais peut-être juste son attaché de presse, s'est dit qu'il était de bonne guerre de mettre en avant ceci et cela. C'est l'œuvre qui nous intéresse là. Je vois pas où est le problème dans cette œuvre.
Moi, je m'indigne sur l'écriture du dossier de presse où Polanski, je pense, a réellement instrumentalisé ce film-là. Il a fait ce film-là, effectivement, pour réécrire l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous et toutes le même accès à la parole. Par exemple, il y a eu une interview de Charlotte Lévis, qui est une autre de ces victime qui avait témoigné du viol qu'elle avait subi étant mineure il y a une dizaine d'années de ça. Elle a été totalement vilipendée, totalement exactement comme l'ont été Denise Bombardier à l'époque.
Tout à fait. Quand elle dénonçait les actes de Matzneff.
Et elle dit « Je n'aurais pas dû parler, ça a bousillé ma vie ». Voilà ce qu'elle raconte. Donc l'égalité de l'accès à la parole n'est pas le même entre Roman Polanski, qui est un cinéaste adulé, protégé, comme l'a été Gabriel Matzneff en des décennies. Et il y a eu aussi les mêmes pétitions de soutien quand il y a eu cette demande d'extradition, parce que je rappelle que Roman Polanski est toujours recherché par la justice américaine. Il est fugitif. Il est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt international, recherché par Interpol.
Ça, c'est une chose, mais ça ne
l'est jamais. Et il avait failli être extradé par la Pologne. Mais il n'a pas été extradé, il a échappé à l'extradition, hein, parce qu'il y avait eu ce soutien massif, et exactement le même soutien qu'a eu Gabriel Matzneff.
Mais son œuvre n'est pas relatant des viols.
Non, je dis simplement...
C'est la différence entre
Non,
les
je
deux,
dis simplement que le fait qu'il n'ait toujours pas réussi à être jugé, parce qu'on dit, est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste ? Mais moi, je dis oui. Il faut mettre le violeur en prison, et puis l'œuvre, qu'elle continue à vivre sa vie. On ne demande pas la censure de l'œuvre. On demande la justice.
Pour autant, il a été question de le déprogrammer dans plusieurs communes.
On demande la justice et d'expliquer pourquoi Polanski échappe à la justice. Et il échappe à la justice.
Ça, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec son travail.
Parce qu'il est protégé par le milieu culturel.
Thomas Schlesser.
Si vous permettez, alors, dans cette protection du milieu culturel, et dans les nombreux débats qu'il y a sur la séparation entre œuvre et artiste, je suis ravi qu'on l'ait ici, il y a un nom qui ne revient pas beaucoup, alors que je crois qu'il est fondamental pour comprendre notre moment, et c'est ce que vient de dire Bélinda Cannon qui m'y fait penser, c'est le nom de Roland Barthes. Le nom de Roland Barthes, parce qu'à la fin des années 60, Barthes écrit un texte qui a été très très influent dans le milieu culturel, dans les années 70-80, milieu intellectuel, sur la mort de l'auteur. Et cette mort de l'auteur, quand Barthes la décrète, c'est au fond à des fins d'émancipation, des fins quasiment révolutionnaires, qui consistent à dire si on arrive à mettre véritablement l'auteur de côté, avec son autorité, eh bien on permet au lecteur, au spectateur, au public, d'être véritablement émancipé, de faire ce qu'il veut de l'œuvre. Et c'est vrai que là, il y a un changement de paradigme tout à fait spectaculaire, où récemment, on observe que l'auteur, avec son éthos, son comportement, son éthique, son vécu, revient comme critère d'appréciation d'une œuvre d'art. Alors j'entends ce que vous dites. Hein,
mais moi je trouve ça pas plus grave que ça. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir lire une œuvre au regard de la vie de l'auteur.
Absolument.
On n'est pas obligé de faire l'économie de l'auteur systématiquement pour pouvoir lire une œuvre.
Vous avez absolument raison, Laurent. D'autant que à côté de ça, il y a en effet, Christophe Bourseiller l'a rappelé tout à l'heure, ce grand mouvement historique consistant, disons, à faire fusionner la vie et l'art. Donc c'est absolument juste. Non, juste une question qui est vraiment une question pas rhétorique, hein, ouverte.
Ouais.
Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui vont voir les œuvres de Polanski, d'une manière ou d'une autre, sont complices de ce que peuvent être les turpitudes
je ne suis pas là pour juger qui que ce soit qui va voir l'œuvre de Polanski, etc. Je dis simplement que moi, à titre personnel, je sais que simplement, je suis réellement indigné que depuis 40 ans il échappe à la justice, oui, et que je n'ai
ça,
pas envie
une chose.
À titre personnel, mais je n'appelle pas à la censure de Roman Polanski, je ne suis pas là en train de juger d'ailleurs ceux qui vont voir ses œuvres.
Mais à titre personnel, vous n'iriez pas les voir.
Je suis par contre scandalisée de l'instrumentalisation qui est faite de Dreyfus, comme je l'ai dit, dans le dossier de presse et dans les éléments de langage, parce que ça participe aujourd'hui à la protection dont bénéficie Roman Polanski, qui fonctionne exactement de la même façon que la protection que Gabriel Matzneff a eue pendant des décennies. C'est simplement le système, effectivement, que quand on est célèbre, quand on est un cinéaste brillant, on peut avoir échappé à la justice et avoir aucune poursuite juridique, comme l'a eu Gabriel Matzneff, comme l'a eu
Gabriel. C'est tout à fait vrai quand même. Vous exagérez un petit peu. Et je suis contente que vous disiez que vous n'appelez pas à la censure. Parce que pourquoi sommes-nous là aujourd'hui?
Aucune féministe n'a
censuré. Non, mais pourquoi sommes-nous là aujourd'hui?
Il y a des manifestations devant le cinéma.
Mais oui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Sinon, il n'y aurait même pas cette émission.
Moi, je m'indigne effectivement du traitement médiatique.
On est tous indignés par le fait que des prédateurs sexuels ne soient pas punis là-dessus. On est tous d'accord.
Oui,
sans doute. Et je suis absolument pour qu'ils subissent aussi les foudres, et en tout cas au moins le passage, la chance de passer devant la justice finalement. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que qu'est-ce qui s'est passé d'absolument nouveau? C'est que justement, il y a des gens, beaucoup de gens aujourd'hui, qui prétendent faire l'économie du passage devant la justice. C'était l'affaire Enel récemment. Moi, j'ai été outrée à l'époque quand Enel, fort justement, rappelait qu'elle avait été victime d'une atteinte sexuelle. Et qu'elle disait, mais je n'irai pas devant la justice. Ça me paraît très grave. Mais on est là aujourd'hui pour parler de ça, des appels à la censure. Du fait qu'on va punir les prédateurs sexuels.
Sinon, c'est un tribunal médiatique.
Non, mais au cœur du combat féministe, hein, que ce soit la troisième vague féministe comme MeToo ou la deuxième, il y a toujours eu quand même une interpellation des pouvoirs publics, une interpellation des lois et une interpellation des dysfonctionnements législatifs et de la justice. Et je rappellerai par exemple que Gisèle Halimi, quand il y avait les procès pour les avorteuses, et ben les militantes féministes, elles étaient devant les tribunaux et elles manifestaient parce qu'elles trouvaient ça scandaleux qu'on puisse condamner encore des femmes pour avortement. Et ben de la même façon, aujourd'hui, des militantes féministes manifestent parce qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements de la justice qui font qu'aujourd'hui, 1%, c'est les chiffres officiels de l'INSEE. Peux vous sourcer, je peux vous faire les références de ce que vous voulez. 1% des violeurs sont condamnés en France. En fait, 90% des femmes ne portent pas plainte. Et sur les 10% qui restent, une sur 10 verra son violeur condamné. Mais ce qui a fait 1%, c'est le crime le plus impuni.
Ce qui a quand même changé dans cette histoire d'une censure, on va dire, il y a eu la censure d'État, il y a eu les mouvements réactionnaires. On se rappelle par exemple de Kiwitas, qui allait manifester devant les théâtres parce qu'on représentait Jésus d'une façon qu'il ne le voulait pas. Et aujourd'hui, en fait, ce sont d'autres mouvements, c'est-à-dire des associations LGBT, post-coloniales, néo-féministes qui prennent le pouvoir véritablement, alors même que ce sont des associations qui devraient
lutter,
a priori,
lutter
pour la liberté
les
d'expression.
Les héritières des chantres de la liberté sont en train de devenir les pires ennemis des libertés, c'est ce que vous dites.
Ça aussi, c'est statistique. L'Observatoire de la liberté de création dit qu'aujourd'hui, la majeure partie des demandes qui lui sont faites de censure ne viennent pas du tout des vieux catholiques réactionnaires, de toutes les ligues de vertus diverses, viennent des néo-féministes, des anti-féministes, etc. C'est ce que vous devez appeler.
Par exemple, il y a eu récemment des manifestations contre la venue d'Emma Becker à l'université Grenoble-Alpes. Emma Becker, qui est une jeune romancière, auteure de La Maison, dans lequel
elle relate son expérience de prostitution à Berlin.
Et il y a eu des manifestations pour empêcher sa venue, non à la venue d'Emma Becker à l'université.
C'est ça le problème, parce que moi aussi je suis aussi féministe que vous et vous que moi, je veux dire, c'est pas ça la question, évidemment. La question c'est quels moyens nous nous donnons pour mener ce combat féministe ou antiraciste. Et le moyen qui est en train de se faire jour aujourd'hui est un moyen très dangereux, parce que ça s'appelle la censure. Je suis pour le recours aux moyens légaux que nous avons de protestation. La loi est mal faite, il n'y a que 10% des femmes qui vont... 10%, c'est les 90 autres, elles n'y vont pas, je vous rappelle. C'est elles qui n'y vont pas.
On sait pourquoi, parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir...
Mais c'est une autre histoire.
Ah, c'est une autre histoire.
On empêchait 99% des femmes d'aller devant le tribunal. On est d'accord. Oui. La question, c'est on a les mêmes objectifs, on veut combattre les mêmes actes, les mêmes attitudes de prédation, etc. La question, c'est comment le faisons-nous? Et il nous semble à un certain nombre qu'aujourd'hui, les moyens que nous utilisons pour ce combat sont des moyens qui sont liberticides. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas. Donc, ce sont des moyens liberticides et c'est ça qui nous inquiète. C'est pas le combat féministe ou antiraciste. On est absolument d'accord sur la visée. C'est le moyen qui nous inquiète.
Alors. Céline Piquet, oui, ensuite
juste peut-être pour répondre par rapport à Adèle Haenel. Adèle Haenel, elle explique extrêmement bien en fait les dysfonctionnements de la justice et pourquoi elle ne souhaitait pas porter plainte en justice, parce qu'aujourd'hui, et ça va répondre aussi à votre question, pourquoi 90% des femmes ne portent pas plainte en justice, et on va le voir dans les semaines qui viennent avec l'ouverture du procès Weinstein, c'est que la justice aujourd'hui. Le sexisme, le patriarcat, le fait qu'on n'écoute pas la parole des femmes, qu'on mette en doute leur parole, qu'on renvoie la responsabilité sur elles, existe encore et ne s'arrête pas à la porte des commissariats ni à la porte des procès. Et les procès, tels qu'elles le racontent les femmes qui ont été dans des procédures juridiques, les broient littéralement. C'est-à-dire que les femmes qui sont aujourd'hui en procès contre Weinstein subissent des attaques d'une agressivité sans nom, de la même façon que Vanessa Spingora doit affronter aujourd'hui les mensonges aujourd'hui qui sont proférés par Gabriel Matzneff, qui l'accuse de mentir, bien sûr, comme Polanski accuse les femmes qu'il accuse de viol, de mentir également. Donc la liberté d'expression, elle est dans les deux sens, et le rôle de nous, féministes, aujourd'hui, c'est de nous indigner sur cette impunité massive des violences sexistes et sexuelles, et c'est tout l'enjeu de MeToo, et il n'y a pas de censure, malheureusement, heureusement.
Si, heureusement. Vous dites malheureusement.
Heureusement, personne n'a de droit à la censure.
Par contre,
on a
le
droit à la liberté d'expression et à l'indignation. Et par exemple, pour finir sur Emma Becker, on a aujourd'hui une loi abolitionniste en France dont le quatrième pilier est la prévention de la violence prostitutionnelle. Et on sait aujourd'hui que la prostitution progresse extrêmement fortement chez les jeunes, chez les étudiantes les plus précaires.
Mais son livre, c'est pas un appel à la prostitution? Le livre d'Emma Becker n'est pas un appel à la prostitution.
Par exemple, il est comme Gabriel je dis simplement, en fait, dans le communiqué de presse dont vous faisiez référence, c'est qu'on s'indignait que l'université publique, hein, qui a quand même un rôle en termes de promotion de l'égalité femmes-hommes, rarement, même jamais, n'invite par exemple des survivantes de la prostitution qui vont raconter le trafic sexuel, l'esclavage sexuel, de traite.
Mais là, ils invitent une écrivaine, et ça n'a rien à voir.
C'est présenté de la même façon qu'Adèle.
Il y a d'un côté les témoignages et de l'autre côté quand même des écrivains, ça n'a rien à voir.
Alors, Emma Becker entretient un peu une...
C'est ce qu'on appelle une fiction documentaire.
Il y a une ambiguïté. Ah ben, parce qu'elle a présenté ça au départ comme un témoignage, et quand on a commencé à faire des enquêtes en disant mais où est ce bordel où il y a des Allemandes, parce qu'en fait on sait très bien qu'il n'y a que des Roumaines et des Nigériane dans les bordels allemands, elle n'a pas pu donner le nom du bordel. Et puis quand on a commencé à davantage poser des questions sur la véracité du récit, elle a dit que c'était une autofiction. Donc il y a aujourd'hui, on ne sait plus vraiment, et ça c'est problématique.
Mais pourquoi c'est problématique ?
C'est problématique.
C'est quand même toute la liberté d'un écrivain
de pouvoir savoir
si c'est documentaire ou pas.
De se poser, pour Gabriel Matzneff, en fait, quand il se présente comme une autobiographie, en fait, le parquet, là, peut saisir la justice.
Tout à fait. Mais dans le cas d'Emma Becker, non.
Pardon ?
Dans le cas d'Emma Becker, non. Il y a une sorte de fictionnalisation documentaire. Donc on n'a pas besoin de savoir.
On va pas quand même. Si c'est un récit, on peut par exemple s'interroger sur. Sur un contrepoint et sur une enfin, la réalité de ce que c'est que la bordel.
Mais faut-il pour autant interdire Emma Becker de parole ?
Personne, mais là aussi, la même chose que Polanski, je vais faire la même réponse. On s'est indigné de la glamorisation de la prostitution qui était faite auprès.
Oui, la réunion a eu lieu, mais il y a eu une contre-manifestation, ça a été très.
La réunion a eu lieu, mais on a le droit de manifester et d'exprimer notre désaccord par rapport à une glamorisation, alors qu'on parle vraiment de traite.
Ça, c'est un vrai problème aussi, c'est la question de la justice, on pourrait dire des réseaux sociaux ou justice médiatique.
Et de la pétition.
Faut regarder, si vous prenez par exemple le cas qu'on évoquait tout à l'heure avec Carole Talon-Hugo fugitivement de Bertrand Cantat, il a commis un crime abominable, mais il a purgé sa peine, même si on peut juger que la peine n'était pas très longue. Il a purgé sa peine. Dès lors, aujourd'hui, on lui a interdit, en quelque sorte, de revenir sur scène et de faire son métier de chanteur, en considérant peut-être que dans l'esprit collectif, il n'a pas purgé cette peine.
Oui, Carole Talon, je trouve un peu curieux de demander d'invoquer la liberté d'expression pour des gens qui demandent de la censure. Mais bon, ça, c'est un autre problème.
On n'a jamais demandé la censure.
Ceux qui l'ont demandé, je ne parle pas de vous en particulier.
Le boycott.
Le boycott. tête, etc. C'est tout de même bien des formes de censure. Oui, je voulais insister sur d'abord le caractère assez massif de ce tournant moralisateur dont on est en train de parler, en le recadrant. Ça ne concerne pas seulement le combat des femmes, c'est massivement présent, hein, ce nouvel esprit, ce nouveau moralisme radical.
Qui inclut Peter Handke, par exemple, qui n'a rien à voir avec la lutte
sûr,
des femmes.
Bien sûr, c'est des raisons politiques, mais bon, on a tous en tête les affaires récentes de la représentation des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne, des demandes de retrait de telle toile de Di Rosa, etc. Bon, toutes ces affaires s'ajoutent les unes aux autres. Donc il faut aussi contextualiser le débat qui est le nôtre aujourd'hui, en voyant quand même qu'il s'inscrit dans un contexte.
C'est ce que vous dites dans votre livre, vous dites la politique culturelle évolue vers une conception ethno-différentialiste de l'art qui se fait écho de revendications identitaires.
Eh bien, on ira plus loin dans la troisième partie, Christophe Bourcillier, sur ce sujet. Tout de suite, je vous propose d'écouter le rappeur le plus célèbre de la planète. Enfin, c'est lui qui le croit. Kanye West remercie Dieu et Jésus sur son dernier album, Jesus is King. Pas de doute, il a vu la lumière, il a fumé un peu aussi.
Life like, this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight bike. Pressing on a gas, supernova for a night light. Screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT. Searching for a deity, now you wanna see it free. Now you wanna see it free, let you see it through your piece. Tell me what your life like, turn it down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on a text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimo. Wrestling with God, I don't really wanna rest so. Man, it's really lifelike, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. Somebody only close to could get you like off ya. I be on my. I woke up this morning, I said my prayers, I'm all doing good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing back. He said, they ain't Christ like. I said, ah!
Rendez-vous. Faut-il arrêter de regarder Gauguin? Faut-il cesser d'écouter Michael Jackson? Faut-il mettre des avertissements avant les classiques de Disney qui peuvent contenir, je cite, des représentations culturelles dépassées? France
Inter. Alors pour Gauguin, la National Gallery a choisi un entre-deux. L'artiste ne disparaît pas, mais on parle de ce qui fâche.
Quand vous regardez ces portraits de femmes, il faut connaître le contexte.
Mais pour certains, ça ne va pas assez loin. Le New York Times pose carrément cette question.
Is it time Gauguin got cancelled?
Est-il temps d'annuler Gauguin? Alors annuler Gauguin, ça fait partie d'un concept aux États-Unis, la cancel culture. En gros, le boycott total d'un artiste, sa disparition pure et simple.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Et on pourrait ajouter, faut-il regarder Degas quand on sait qu'il était antisémite, Caravage parce que c'était un assassin, Balthus pour d'autres raisons, là, Thomas Schlosser.
Oui, alors quand on dit quand on sait, c'est très, très important de rappeler quand même comment on sait. On parle d'hommes et de femmes là, mais au fond, comment est-ce qu'on les connaît? Il y a deux manières de les connaître. Soit il y a l'enquête journalistique pour les gens vivants, et pour les morts, il y a quelque chose qui s'appelle la consultation d'archives. Alors, je suis désolé, ça vous semble extrêmement aride comme ça.
Pas tant que ça, non.
Mais avant de se prononcer sur quelqu'un, quelque chose, il faut le connaître historiquement. Consulter des archives, c'est long, c'est ingrat, c'est absolument pas valorisé par la société.
Il y a des biographies aussi. Il y a des biographies. Quand on lit la vie de Caravage, on sait qu'il a été un assassin.
On le sait.
Pour autant, faut-il regarder ses œuvres?
Laurent Goumard, on le sait grâce à l'autorité d'un auteur qui a consulté des archives, peut-être pas toutes, on ne sait pas. Alors, moi, la question que je me pose en tant qu'historien de l'art, c'est en effet de savoir si tout ce que je trouve dans les archives que je consulte disqualifie tous les artistes sur lesquels je travaille. Parce que sachez-le, quand on commence à plonger dans des correspondances, des journaux intimes, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui traverse l'âme humaine et l'action humaine, les actes humains, mais c'est très, très, très fréquemment des choses qui sont, en tout cas pour nos yeux contemporains, absolument détestables. Et en effet, j'ai relu du coup les écrits d'un sauvage de Gauguin. C'est vrai que ce que raconte Gauguin peut relever aujourd'hui de ce qu'on appelle la pédocriminalité. Clairement, clairement. Néanmoins, je voudrais juste dire une petite chose.
Alors donc, répondez à la question. Oui. Par rapport à ce que l'on peut lire, donc par rapport à la vie privée, c'est-à-dire que regarder la vie privée, c'est vraiment le seul moyen de ne pas regarder une œuvre. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sachant que Gauguin était pédocriminel, on le sait depuis pas mal de temps, ça veut dire donc qu'on peut annuler
une exposition Gauguin. Vous faites bien de me relancer, ma réponse à moi est absolument non, il en est hors de question, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que sans ça, il y aurait une espèce de jurisprudence de l'interdiction qui serait absolument épouvantable. Juste, je termine.
Et pour autant, c'est ce qui se passe.
Je voudrais terminer en une seconde sur le cas Gauguin, avec cet article du New York Times qui donnait la parole précisément à une conservatrice que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ashley Remer, et qui dit de Gauguin, c'est un pédophile prétentieux et surestimé. Et en fait, si vous voulez, le problème, c'est ça aussi. C'est que des journalistes vont donner la parole à quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur les archives de Gauguin, et qui va au nom d'une espèce de on-dit ou simplement d'idées communes, faire le glissement entre le jugement moral et au nom de sa position d'autorité qui est celle de conservatrice, dire que l'artiste est surestimé.
Alors, dans le même article que j'ai lu, Gauguin a de façon indubitable profité de sa position d'occidental privilégié pour s'accorder une grande liberté sexuelle. Alors, Gauguin était une sorte de colonisateur sexuel, en fait.
Bon, cela dit, ça c'est vrai, quand on lit les écrits d'un sauvage, c'est pas complètement faux.
Et alors ?
Non, et alors ça n'empêche pas de voir l'œuvre.
C'est de voir l'étoile de Gauguin.
Mais ça n'empêche pas de voir l'étoile de Gauguin.
Alors, là, moi, on est. Oui. Je pense qu'on est totalement sur un autre plan que des artistes vivants qui devraient répondre à la justice.
On fait évoluer le débat.
Et ça n'a strictement rien à voir entre un artiste décédé, dont on évalue, enfin, dont on apprécie l'œuvre aujourd'hui, et puis un artiste vivant.
Bah, quand on appelle le boycott d'un film, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose de vouloir retirer une exposition.
C'est totalement différent. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Gabriel Matzneff ou Roman Polanski soient. C'est une demande de justice.
Et quand on modifie la fin de Carmen, par exemple, procès, parce qu'on trouve que c'est trop macho.
Voilà, la première partie de l'émission, c'était nous, féministes, demandons un procès pour Roman Polanski, un procès pour Gabriel Matzneff.
Oui, mais ça se fait toujours au dépend des œuvres.
L'autre débat, c'est
on demande un procès et pour autant, on essaye de boycotter une œuvre.
À la question, c'est exactement pas du tout le même constat d'un artiste décédé.
Ça, c'est vrai.
Et simplement, peut-être, réinscrire ses œuvres dans un contexte et de voir que ses œuvres, en elles-mêmes, même la façon dont il représente les femmes tahitiennes, sont révélatrices aussi d'une époque où de la colonisation qui faisait qu'aujourd'hui...
On peut en dire autant de Matzneff qui est représentatif de l'époque post-68.
Sauf qu'il y avait déjà des associations qui luttaient contre la pédocriminalité, qui s'étaient indignées dès les années 80 contre les écrits de Matzneff. Donc c'était un petit peu différent. Et à l'époque, il y avait aussi des combattants de la colonisation qui luttaient pour l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle, ensuite pour le retrait des colonies. Ouais. Et tant
sans,
mieux.
Sans être écoutés aussi à l'époque.
Sans être écoutés aussi à l'époque. Et je prendrai un autre exemple sur le racisme. Autant en emporte le vent. Et aujourd'hui, un film qui est considéré comme raciste. Et il faut simplement le remettre dans son contexte des années 30, où la vision, effectivement, était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de gagner... J'estime, moi, une bataille culturelle des représentations.
Il faut simplement interdire Tintin.
Réinscrire les œuvres dans leur contexte historique.
Carole Talon-Hugon.
Oui, je ne suis pas d'accord avec l'idée que la question ne se poserait pas, puisqu'on est tous d'accord pour dire que, parce qu'elle se pose, le texte que vous avez lu, cette demande faite aux États-Unis, montre bien qu'il y a des personnes pour dire qu'il faut, il faut décrocher l'étoile de Gauguin. Donc ça, nous ne l'avons pas inventé, c'est vous qui venez de lire.
Ah non, mais bien sûr.
Donc ce qui se passe aux États-Unis, nous savons par expérience que ça arrive légèrement, avec un léger décalage ici. Donc il ne faut pas imaginer que nous avons posé là une question inimaginable. Non, c'est une question qui va se poser, qui se pose certainement déjà en France. Donc elle est parfaitement au centre de notre débat, au contraire.
Bélinda Cannon et ensuite Thomas.
Moi je voulais revenir sur ce que disait tout à l'heure Carole Talon-Hugon, qui me paraît très important, qu'on n'a pas encore vraiment abordé, peut-être qu'il faudrait toute une nouvelle émission pour ça, mais c'est quand même le contexte dans lequel tout cela arrive, cette époque que nous sommes en train de traverser, qui est l'époque, la grande époque de la promotion des victimes. Il y a quelque chose qui a changé dans le fond de scolaire qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui ayant subi un préjudice ou ayant été victime de quelque chose a droit à toute la lumière, à toute la considération de l'ensemble de la société et peut, du coup, avoir des activités aussi dommageables que la censure, etc. Donc, il y a quand même un phénomène d'époque et une promotion de la victime qui fausse complètement tout. Vous avez des positions très, très sérieuses, très raisonnables, Madame Pic. Vous dites, vous n'appelez pas à la censure. Mais toute l'époque appelle à la censure. Et il faut se demander ce que nous avons fait, comment nous avons présenté les victimes aujourd'hui pour que n'importe quel censeur se sente légitime en réclamant
et
la censure.
Alors, est-ce que vous n'avez pas, juste une question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, par exemple, au niveau des écrivains et au niveau de l'art contemporain, il y a même une autocensure aujourd'hui de la part des artistes?
Bien sûr, énorme, énorme. Et c'est dû, en effet, à un climat de, j'allais dire, presque de peur de la part de beaucoup chez beaucoup de créateurs. Néanmoins, il faut bien dire les choses, c'est peut-être une évolution que demande la société pour également des bonnes raisons, parce que il faut éviter d'avoir la position tutélaire, aristocratique de l'artiste qui perdure comme ça indéfiniment. Mais c'est vrai que les artistes, en même temps, par effraction, ouvrent des portes sur la liberté et que l'intimidation à outrance, me semble-t-il, n'est pas véritablement une bonne chose. Un dernier tout petit mot sur Gauguin, très important, pour qui a fait écho à ce que disait Carole à l'instant. C'est que, en plus, Gauguin n'était pas un colonialiste forcené. Pas du tout. Ce qui lui est reproché, c'est d'être un mauvais anticolonialiste. Parce que s'il fait le voyage à Tahiti, c'est bel et bien parce qu'il trouve que l'Occident est monstrueux, complètement pourri, comme il le dit, et qu'il veut retourner à une terre qui lui semble beaucoup plus authentique, belle, allant de l'avant, porteuse de valeurs positives. Mais parce qu'il est blanc, simplement parce qu'il est blanc et qu'il vient de l'Occident, aujourd'hui, nous considérons qu'il faisait preuve d'un comportement qui était un comportement colonial. Donc, vous voyez, c'est très très subtil.
Je voudrais dire une dernière chose, c'est que si aujourd'hui nous ne prenons pas garde, il faudra s'appeler Adèle Haenel ou il faudra s'appeler, vous faudrait être directrice chez Julliard pour pouvoir protester contre les violences qui nous sont faites. Donc moi je dis faisons très attention et ayons toujours recours aux tribunaux, à la justice. Et si elle n'est pas bonne, on travaille pour la changer. Mais on ne la contourne pas. Sinon, il faudra être un grand de ce monde pour pouvoir protester des préjudices qu'on a subis. Donc, faisons attention avec la justice. Ne la contournons pas, modifions-la.
C'est une pique.
Ah, je suis complètement d'accord. Je pense que le combat féministe de MeToo aujourd'hui, il est de modifier effectivement les dysfonctionnements extrêmement graves de la justice qui font qu'aujourd'hui, je le rappelle, enfin, regardez les affaires qui sont en cours. Est-ce que vous, depuis l'affaire MeToo, est-ce que vous pouvez me citer autour de la table un seul homme condamné pour viol d'une personnalité connue? Il n'y a eu que des prescriptions, des classements sans suite, à peu près.
Et des tribunaux médiatiques?
Les tribunaux médiatiques, moi j'appelle ça une politique d'interpellation pour montrer justement des dysfonctionnements de la justice.
Quelquefois d'intimidation.
Nicolas
aussi.
Hulot, Gérard Darmanin, Denis Baupin, prescription, Darmanin, c'était non-lieu, classement sans suite, il y a eu appel. Il n'y a aucune personnalité aujourd'hui, depuis MeToo en 2 ans, qui ait été condamné pour les accusations qui sont faites. Donc les dysfonctionnements de la justice, ils sont là, et on est là pour les dénoncer, et certainement pas pour esquiver la justice ou la remplacer.
Carole Talon-Hugon, ça sera le mot de la fin.
Oui, je voulais dire qu'il faut se méfier terriblement de ce que ces tribunaux médiatiques, ces nouveaux modus operandi de la critique, hein, la pétition, la tribune, la manifestation, le lynchage médiatique, etc., qui existent au détriment de la justice, là je rejoins tout à fait Belinda Cannon, sont très graves parce qu'ils conduisent à des formes de simplification, de vision binaire, de manichéisme qui sont insupportables. Je veux dire par là, ne pas être contre la rétrospective Polanski, c'est être pour les viols des femmes. Ne pas être contre le boycott des films de Woody Allen, c'est être pour le patriarcat, pour le sexisme, etc., etc. Et ce manque de nuance, aujourd'hui, me paraît être une des choses les plus graves qui soient, parce que intellectuellement, c'est une catastrophe. Et ça conduit à toute forme de choses éthiquement très problématiques.
Et bien voilà, ça c'était un vrai mot de la fin. Merci à vous. On va retrouver la musique pour finir cette première émission en live de 2020. On va retrouver, bien sûr, Marion Guilbeault.
Nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion Guilbeault. Notre invitée spectaculaire derrière vous.
Elle est magnifique.
Toutes les deux d'ailleurs, elles sont deux et toutes les deux sont spectaculaires.
Ouais, elle avec sa copine DJ Charline, alias True Lady Gag. C'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui, bien Charline. Pas mal, hein. Oui. Voilà. Blue Samu, c'est le nouveau son d'une scène belge en plein boom urbain. Après Damso, après Roméo Elvis, après Hamza, après Angèle, on va faire connaissance avec elle. Elle se présente aujourd'hui vêtue d'une tenue assez insolite. Hein. Elle est composée en partie de rubans blancs. Elle est parée d'une coiffe de coquillage avec le casque. C'est pas évident, mais elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'allure.
Ouais, mais ça fait du bruit, justement, ouais. Longtemps. Ouais, c'est pas
quand
mal.
Elle remue comme ça, c'est ouais, joli c'est comme joli. Tout. Ouais. Comme sa musique. Voilà. Alors, elle a choisi le rap, Blue Samu, pour exprimer ses doutes, affirmer sa singularité. Elle dit que ça lui a donné un cadre, voire un rythme de vie après une enfance au Portugal, une adolescence à Anvers et un début de vie d'adulte, elle a 23 ans, à Bruxelles. Dans sa tête, le bleu est partout, dans le fado de son enfance, dans le blues des chanteuses comme Sade, comme Lauryn Hill, comme Amy Winehouse, dans l'océan, dans la nuit, d'où le choix de ce pseudo Blue Samu. Alors c'est vraiment une intuitive, elle a appris auprès du 77, c'est un collectif bruxellois, mais elle écrit aujourd'hui toute seule un nouvel acte de sa jeune carrière. C'est une sans filtre, l'écriture est au centre de sa démarche, elle a beaucoup écrit de poésie, et puis elle se situe quand même très très loin de l'ego trip de ses confrères et ses consoeurs. Bonsoir Blue Samu et bonne année 2020. 2020 déjà à vous.
Merci
pour commencer.
Beaucoup. Bonne année à vous aussi.
Le titre de votre dernier EP, c'est Ctrl Alt Del. Alors ça fait référence aux trois touches sur l'ordinateur qui permettent de le redémarrer. Et la chanson que vous allez jouer, c'est aussi un acronyme. Ça s'appelle JFM. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors JFM, ça veut dire en anglais God Forsaken Me. Et en français traduit, ça veut dire Dieu, il m'a abandonné. Un peu même cursed. Je ne sais pas comment on traduit ça. Et le titre, il part surtout des facettes différentes que j'ai, de la bataille internale qu'on a tous, et comment se libérer de soi-même.
Ah ben c'est un vaste programme,
on va vous
pour une seule chanson.
Vous libérez de vous-même tout de suite en live dans le NRV, c'est Blue Samu.
Merci. Shape or form, no cape or horns. Is it really me? Is it really me? Is it really me? I ask myself, am I too blind to see? Should I ask for help? Do I have to yell? I can't tell what to do with these dilemmas, God. Tell me what or who I gotta fight next. I know it's all a test. I know that I could be more than the best. I know they impressed and I ain't even started yet. How this shit is a fucking mess. And I'm blessed, yeah, but I'm stressed. Need more money, I need less. Occupation side of my head. I need more sense inside my plans. And I can't win if I can't stand on my own. I don't wanna pose, not looking for miracles. I just wanna hope, just wanna heal my soul. But oh no, you kidding me? God forsake my soul. You feeling me? Please give me some control. The enemy has got no shape or form, no cape or horns. Is it really me? Is it really me? I must be walking wrong, I must be stumbling on the wrong path. Must be attracted to bad, or maybe I'm bad. Maybe this is preparation and I'm getting everything I wish I had. And I carry damn mountains on my back, so forgive if I slack. But I do stay on track, don't lose sight of my goals. No, I never stand back, these days then what's holding me back? Hey, I don't know, maybe it's a change, yeah, maybe it's a growth. Maybe it's a confrontation for the things that I got to let go. I say, hey, I don't know. Maybe it's a change, yeah, maybe it's a growth. Maybe it's a confrontation of all the things that I got to let go. But oh no, you kidding me? God forsake my soul. You feeling me? Please give me some control. The enemy has got no shape or no cape or is it really me? But oh no.
Mot de la fin là aussi.
Pas mal.
Merci.
voyez, il n'y a pas de tabou dans le NRV.
Ah hein, non, 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 plus,
ça commence, ça commence très fort. GFM, c'est extrait de son dernier EP, Contrôle Alt Del. C'est disponible depuis le 15 novembre. Elle est accompagnée au platine, je l'ai dit tout à l'heure, par Charline The True Lady Gag. Et elle est habillée par qui?
Par Kevin Lanoy, yes, ouais. My Brother in the Back. Et okay. Je porte une pièce de tête qui est magnifique, de la Falaisian.
Ouais.
Falaisian.
Et voilà. C'est des créateurs belges?
C'est des Parisiens.
Ah, j'essaie
de faire du contact. Oui, des
D'accord,
Parisiens.
D'accord, ok. Bah, bon contact. Hein. Bon contact, Blue Samu. Elle sera en concert à Lille le 18 janvier. Strasbourg, Orléans, La Machine du Moulin Rouge à Paris. Ce sera le 23 janvier. Il y aura aussi Angers et Rouen avant d'assurer la première partie de Balthazar. Ça va être une super affiche à La Cigale à Paris les 12 et 13 février. Prise de son ce soir, assurée par Juliette Delperroux et Paul Percheron. Merci beaucoup à vous
merci
tous.
Merci à vous.
Et merci à tous nos invités. Merci beaucoup, Céline. Merci Bélina Canon. Je rappelle, La Forme du Monde, c'est paru aux éditions Artaud. Thomas Schlesser, La Censure en Art, c'est aux éditions Beaux-Arts, édition et Faire rêver de l'art, des lumières au cauchemar publicitaire, c'est aux éditions Gallimard. Et enfin, Carole Talon-Hugon, merci aussi. L'art sous contrôle, nouvel agenda sociétal et censure militante, est disponible chez PUF. C'était le NRV, première partie. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal, hein, pour le NRV La Suite France Inter Plus, mais demain dans le NRV. Iran, manifestation anti-américaine, déstabilisation au Moyen-Orient. On en parlera demain avec Christophe Bourseiller et nos invités. Et en live, Marion.
On va retrouver les bienfaits d'une contre-programmation, Laurent, avec la folk de Morgane Imbeau.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rouzic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.